7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque mois, je reçois les tchatcheuses, le rendez-vous des tchatcheuses. Ce sont trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité de leur choix. Ana Navarro-Pedro est avec nous. Bom dia, Ana.
Bom dia, Emmanuel.
Journaliste portugaise pour l'hebdomadaire Visao. Également avec nous, Veijou Naravan, de passage en France. Good morning, Veijou.
Good morning, namaste.
Journaliste indienne. Et puis, on attend, coincé dans les embouteillages, une tchatcheuse ghanéenne de marque de passage en France, Angela Asante, qui est journaliste sportive et qui est venue, bien sûr, pour
le mondial de foot féminin.
Et ben voilà, et elle va pouvoir dialoguer avec vous, Ana Navarro-Pedro, parce que je sais que vous adorez le foot. Et
oui.
J'espère qu'elle va arriver. Et en fin d'émission, reportage sur un changement de vie ou comment une journaliste de la presse féminine habituée au défilé de mode a repris des études d'agriculture. Et quant à vous, les tchatcheuses, bien évidemment, vous pouvez aussi, si vous êtes journaliste dans votre pays, nous appeler pour dialoguer avec les tchatcheuses en studio au 33 1 84 22 71 71 et tous les autres. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et bien sûr, c'est aussi le numéro WhatsApp.
Cuéntame qué te pasa.
I would like to make a few comments.
Ça commence à passer ça.
Si tu peux me laisser aller jusqu'au bout, s'il te plaît.
Tchatcher, c'est parler avec plaisir.
Maintenant, les filles.
Ce sera tout.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Bon, je voulais qu'on commence avec le foot parce que personne, on est tous dans les starting blocks pour le foot, mais il y a quand même une info et une actu importante pour vous, Veijou Naravan, les élections législatives en Inde le mois dernier. Vous savez qu'on revient toujours sur l'actu aussi du mois dernier, des derniers temps. Le BJP de Narendra Modi est à nouveau vainqueur et une question vous intéresse et nous intéresse aussi. Pourquoi les femmes indiennes ont plébiscité le parti de Narendra Modi, plus nombreuses que les hommes en règle générale, à se rendre aux urnes depuis pas mal d'années, non ?
Oui, effectivement, et c'est très curieux parce qu'en Inde, comme tout le monde le sait, il y a un déficit féminin, c'est-à-dire globalement, il y a beaucoup moins de femmes en Inde parce qu'évidemment, on tue les fœtus filles parce que les filles ne sont pas voulues par beaucoup de familles. Et malgré ce fait, aux urnes, les femmes ont complètement débattu les hommes en termes de présence et participation dans les élections. Et cette fois-ci, on a vu que les femmes ont massivement voté pour Narendra Modi. En fait, cette élection était beaucoup plus une sorte de plébiscite pour la personne de Narendra Modi
que pour un parti.
Et je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a chez cet homme qui attire tellement des femmes. Et on avait fait un sondage à l'université d'Ashoka. Beaucoup trouvent que le fait qu'il soit célibataire, il fait jeune et dynamique.
Oui, il a 68 ans. Hein.
Oui, mais il fait beaucoup moins que ses 68 ans. Les femmes le trouvent, entre guillemets, sexy, même si en Inde, on n'ose pas utiliser ce mot, mais il y a une très forte attirance physique même pour cet homme,
eh ben,
qu'elle trouve être quelqu'un qui est fort autoritaire, et lui, il parle volontiers
de son tour de poitrine,
qui est 56 pouces. Je veux dire, c'est un homme bien baraqué, qui pratique le yoga, qui est un très smart dresser, très sartorial. Ses vêtements coûtent extrêmement cher. Et voilà, il joue un jeu de séduction. Et je dirais vraiment que les femmes hindoues, surtout hindoues, parce que le discours de Narendra Modi est un discours majoritaire. Gratter les hindous dans le sens de la poêle pour leur dire que vous êtes en quelque sorte les élus de l'ancienne civilisation indienne, que les musulmans c'est les autres, il faut de pointer des doigts toutes les minorités en Inde, et ces femmes hindoues ont massivement voter pour cet homme.
C'était pas le cas en 2014, non? Les femmes n'avaient pas massivement voté pour, n'avaient pas plébiscité ce discours anti-musulman. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que,
parce que dans
aujourd'hui
les
femmes
années,
soient les électrices de Narendra Modi, oui, de son parti?
Ben, il y a eu deux choses. Dans les quatre années de la reine de Narendra Modi, on a vu vraiment une polarisation absolue de la population. On a mis au banc toute la communauté musulmans en faisant l'amalgame de musulmans égal Pakistan, égal antinational, égal terroriste. En plus, il a encouragé le discours que la vache est la mère sacrée de tous les Indiens et donc il ne faut pas abattre la vache et que les musulmans mangeurs de vaches sont des impurs et des ennemis de la religion hindoue. Mais aussi avec ça, Narendra Modi a conjugué ça avec des différentes mesures sociales en faveur des femmes. Donc il a d'abord dit, écoutez, éduquez vos filles. Chose qui a plu à des femmes. L'autre chose qu'il a dit, c'est que tous les soins médicaux pour une dame enceinte pendant la grossesse et une année après la naissance de l'enfant seront complètement gratuites.
Ouais, ça, c'est énorme, évidemment.
Bon, la pratique montre que ces mesures n'ont pas été suivies, elles ont été mal mises en place et tout ça, mais la machine de la propagande de Modi est tellement forte qu'il fait miroiter ces choses devant la population et les gens les boivent.
Ouais, donc finalement, la politisation croissante des femmes, la participation croissante des femmes au scrutin en Inde, pour vous, c'est décevant ou pas?
Pour moi, c'est une très bonne chose que la femme sorte chez elle pour participer dans les élections.
Mais même après, si c'est pour les mauvaises raisons?
Même si c'est pour les mauvaises raisons, parce que peut-être que le gouvernement Modi va pas durer après les prochaines 5 années. Et puis, il y a quand même la conscience, la prise de conscience. Je préfère une femme qui vote mal plutôt qu'une femme qui ne vote pas du tout.
Oh, ça, c'est une vraie question de débat, ça.
Ah, c'est une vraie question philosophique, ça. C'est une thèse doctorat, ça.
Vous préférez une femme qui vote mal? Ce sont les propos de...
Je préfère quand même qu'elle ait une conscience politique. Je préfère quand même qu'elle ait une conscience politique. Et même si, c'est vrai, même si cette conscience politique n'est pas la mienne, je ne la partage pas autant qu'elle l'exprime dans les urnes, ça c'est sûr. Après, je ne suis pas sûre si c'est uniquement pour le tour de torse de Modi, ça me fait recroqueviller.
Il est, en plus, il est physiquement répugnant. En tout cas, moi, je le trouve
aussi. Ses propos vous appartiennent, Véjou.
Oui, pas de diffamation.
Pas de diffamation.
Oui,
on reste
de procès
sur le débat. En tout cas, voilà. Non, mais c'était intéressant. Faut le rappeler, cette élection en Inde, c'est les plus grosses élections au monde, ces élections législatives.
900 millions de votants. Oui. Les élections qui se déroule sur 6 semaines.
900 millions de... Dans la mesure où la Chine ne vote pas, hein, et que ce n'est pas une démocratie, oui, bah c'est effectivement les plus grosses élections au monde, c'est en Inde qui a une démographie comparable à la Chine.
Et c'est les plus grosses élections jamais tenues dans l'histoire du monde. Effectivement.
1 million de bureaux de vote installés dans les 29 États. C'est gigantesque. Merci en tout cas d'avoir attiré notre attention sur ce point-là, Véjou Naravanan. On va parler maintenant, on va remonter, on va partir vers le nord, direction les États-Unis, qui n'en finissent pas de se déchirer sur le droit à l'avortement. L'Alabama a adopté la loi la plus répressive jamais votée contre l'avortement. Et c'est vrai que le débat était déjà largement sur la table aux États-Unis. On en a parlé d'ailleurs avec vous, les tchatcheuses, le mois dernier. Ouais. Véjou Naravanan, vous vous interrogez sur le boycott des multinationales dans ce débat. Ça, c'était le bon temps, hein, quand on chantait Sweet Home Alabama. Véjou Naravanan, que viennent faire les multinationales comme Netflix, comme Disney, dans ce débat sur le droit à l'avortement?
C'est très curieux et c'est très intéressant parce que, comme tout le monde le sait, le fondateur de Disney, qui est Walt Disney, et d'ailleurs la société continue à s'appeler The Walt Disney Company, était quelqu'un qui était profondément catholique, fondamental, chrétien, je veux dire, fondamentaliste, qui était, tout en étant homosexuel lui-même, décriait complètement l'homosexualité. Il était profondément anticommuniste aussi. Et Walt Disney Company a tout de même gardé ses valeurs, soi-disant conservateurs. Donc, on veut des gens qui ont des bons morales, etc. Mais même ces sociétés doivent changer avec le temps. Et ils se rendent compte que leur auditoire aujourd'hui est vraiment beaucoup plus jeune, dynamique, technologiquement très, très, très avancé. Et cette génération rejette en quelque sorte les anciens valeurs de être pur et ne pas avoir du sexe avant le mariage et ça, tout le reste.
L'industrie culturelle aujourd'hui dans le monde, elle est majoritairement progressiste finalement.
Elle est obligée de devenir progressiste parce que son auditoire est jeune. Ils ont l'œil sur leur consommateur plutôt qu'avoir une éthique ou une idéologie.
Alors,
eux-mêmes.
On va quand même bien repréciser. En fait, ces entreprises Netflix, Warner, Disney, Universal, Sony ont prévenu qu'ils allaient boycotter la Géorgie, qui est un État, qui est en fait un endroit où il y a beaucoup de tournages. Hein,
il y a énormément de films. Tournages parce qu'ils donnent des tax holidays. Ils offrent
beaucoup d'incitations
fiscales.
Et donc, ils ont prévenu qu'ils allaient boycotter cet État pour leur nouvelle production. C'est quand même un État qui où cette industrie du film procure quand même 92 000 emplois. Donc là, c'est une vraie menace. Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça aussi, Veijoux, quelque chose de l'ordre de la responsabilité sociale des entreprises, mais un peu un calcul marketing aussi pour se positionner?
Ah, il y a un très fort calcul marketing. Moi, je pense que c'est vraiment un calcul marketing pour se positionner vis-à-vis de leurs consommateurs.
Voilà, la première blague qui est partie, mais très vite, aux États-Unis, quand ces États ont commencé à approuver ces lois, ça a été comment ces républicains qui les ont votés, ces hommes blancs, vieux et cravatés, ils vont devoir envoyer leur maîtresse en dehors de leurs États pour faire des avortements. Excusez-moi d'être aussi cynique, mais c'est les Américains qui étaient cyniques, et c'est la vérité même. Et la deuxième chose qui a été dite tout de suite, c'était parmi les jeunes, c'était ce cri du cœur, mais boycottons les entreprises qui seront là, certains disaient on va déménager, mais pourquoi déménager? C'est notre État, on en a travaillé ici, nos amis, etc. On a acheté notre maison. Boycottons ces entreprises, frappons-les au portefeuille, et puis on va voir si ça peut tenir. Mais je pense que c'est vraiment la seule réponse. C'est la seule, et c'est cette jeunesse.
C'est le rôle d'une entreprise de faire ça?
Ah non, c'est le rôle des consommateurs de frapper les entreprises et de les obliger ensuite à avoir une influence sur les politiciens, ne serait-ce que par le sacro-saint et important, évidemment, indicateur du chômage ou de la création d'emplois. Mais effectivement, c'est vraiment la seule façon. Mais en attendant, ça va saigner, les enfants.
Ça va saigner. Bon, allez, on va passer au foot maintenant. Angela Santé, tchatcheuse ghanéenne, vient de nous rejoindre dans le studio. Bonjour Angela.
Bonjour.
Soyez la bienvenue.
Bonjour tout le monde.
Pas trop dur les embouteillages à Paris ici. Hein.
Ouais, les embouteillages étaient durs, mais en fait, ce qui était plus dur, c'est d'avoir été foiré par mon chauffeur Uber.
Allez, tout de suite, on part pour le mondial de foot féminin. Ana Navarro-Pedro, Angela Santé, un coup de gueule déjà Ana Navarro-Pedro à propos du déménagement de l'équipe de France féminine.
C'était, non mais attendez.
C'était le 29 mai dernier, ça y est, allez, on va passer l'éponge.
Non, on va pas passer l'éponge. Ça, c'est la sélectionneuse de l'équipe des Bleus qui a passé l'éponge parce qu'elle voulait pas de polémique. Elle avait tout à fait raison.
Elle était tendue hein, quand elle a dit que bon, tout allait bien avec Didier Deschamps, qu'ils s'étaient mis d'accord pour se partager le château de Clairefontaine et qu'ils s'étaient mis d'accord aussi pour que les filles laissent la place.
Non, mais attendez. La, la Fédération française, la FIFA, la Fédération française de football, tout le monde a fait tout un fromage de ce mondial en disant mais ça y est, ce qui n'est pas vrai non plus, mais il faut parfois faire un petit peu, raconter un petit peu une histoire, faire de la propagande pour que la mayonnaise monte, prenne. Eh bien, on a vu les spots publicitaires, oui, les
garçons
articles.
Les garçons préparaient un match amical.
Exactement, les filles sont là à préparer le mondial à domicile. Et tout d'un coup, les garçons ont un petit match amical et oust, les filles, on les fait partir.
Angela. Non, mais il faut dire, j'étais choquée par cette nouvelle. Enfin, les garçons préparent un match amical contre la Bolivie. Je sais pas, qui c'est qui s'occupe de réserver les hôtels et tout ça. On ne dit pas à une équipe féminine qui est en train de préparer un mondial qui vraiment va... Je veux dire, c'est gros pour la France, ce mondial. Et puis un petit match amical contre la Bolivie.
On ne va pas tout changer comme ça en une Coupe du Monde. La Coupe du Monde masculine existe depuis 1930, la Coupe du Monde féminine 1991. On ne va pas tout balayer comme ça.
Non, mais la France n'est pas en train de s'entraîner pour un mondial. En fait, la France, elle s'entraîne juste pour rester en forme. Mais la personne, l'équipe qui est en train de s'entraîner, c'est la Bolivie, parce qu'ils vont jouer dans la Coupe d'Amérique. Ok, donc ce match-là amical était plus important pour la Bolivie que pour la France.
Bien sûr.
Et imaginez ça, casser les préparations des Françaises qui sont en train de préparer une Coupe du Monde. En fait, c'est vraiment, il faut se remettre en question. Hein, il faut un peu respecter.
On a tout fait pour dire aux gens c'est important le football féminin. Et qu'est-ce qu'on leur dit à un moment donné? C'est pas important. Tout ça, c'est du pipeau, c'est pas important. Mais où est-ce qu'il y a un cerveau dans la FIFA et dans la Fédération française de football? Est-ce qu'il y en a un masculin, évidemment, parce que les filles l'ont bien dit, évidemment, mais donc il y a des cerveaux féminins.
On a un cerveau, mais ce cerveau veut sciemment et consciemment garder les privilèges des garçons, parce que ce sont des cerveaux masculins qui sont là.
Bon, le voilà mondial n'a réponse. Pas commencé.
Emmanuel, comment ça va un peu bien.
Oh non, pas du tout, mais ça y est, ça a déjà bien démarré. Angela, santé, le Ghana n'est pas dans la sélection, trop triste.
Ça va, ça va. En fait, c'est un peu dommage quand on n'a pas pu se qualifier. C'est parce qu'on a joué la Coupe d'Afrique à domicile. Et voilà, c'était vraiment quand même quelque chose de gros de ne pas pouvoir aller au mondial. Mais je me suis dit, bon... Quand il y a, quand il n'y a pas,
il y a le Nigeria, il y a le Cameroun,
il y a le Nigeria. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez du boycott, mesdames, de la Norvégienne, Ballon d'Or, première femme Ballon d'Or en 2018, l'attaquante de Lyon, Ada Hegerberg. Je précise, Angela, je sentais que vous connaissez bien ces dossiers-là. Vous êtes journaliste sportive, spécialiste de foot pour un site internet américain et vous travaillez donc au Ghana.
Ouais.
Alors.
Non, moi je pense que c'est ça.
Elle a refusé.
Oui, elle a refusé
de participer au mondial.
C'est sa décision personnelle.
Pour protester contre l'inégalité de traitement entre footballeuses et footballeuses.
Oui, moi je trouve qu'il faut qu'on respecte son opinion. Bon, et d'ailleurs, c'est intéressant. Là, je vais un peu remettre encore l'équipe de France dans le jeu. Parce que là, on a eu Didier Deschamps qui avait dit non, il ne veut pas que Karim Benzema joue dans l'équipe parce que ce ne sera pas très bon pour le dressing room, comme on l'appelle. Et là, Anna Hegerberg, elle se dit bah non, elle ne veut pas jouer dans l'équipe norvégienne parce que de toute façon, le football, ce n'est pas juste. La performance, c'est aussi l'esprit d'équipe. Et elle n'est pas dans cet élément-là de pouvoir partager ce qu'elle a, ce qu'elle peut offrir avec le reste de l'équipe. Et je trouve que ça va déstabiliser l'équipe norvégienne. Donc si l'équipe norvégienne rentre dans ce tournoi, sachant que elle n'est pas là.
Donc vous la soutenez? Vous soutenez sa position?
Moi, je soutiens toute position qui est fondée de manière émotionnelle et mature. Et je trouve que sa décision est très mature.
Bon, elle dit qu'il y a encore trop de beaux discours. Certains jours, je suis à bout, je me demande ce qu'il faut faire pour changer les choses. Rien n'avance assez vite.
Ouais.
C'est la joueuse la mieux payée du foot féminin, quand même. Elle 400 000 euros par an.
Elle est très forte aussi. Mais moi, je pense que la décision qu'elle a prise, elle n'a pas pris sur un coup de tête. Mmh. Elle a beaucoup pensé. Et il y a des rumeurs qui disent qu'elle a des problèmes, en fait, avec certains gens qui sont dans l'administration. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est hypocrite.
Ouais. Anna Navarro-Pedro, elle aurait dû participer ou pas?
Écoutez,
est-ce qu'il faut remettre du féminisme à ce moment-là au moment de participer ?
Moi, je suis plutôt sur la ligne des joueuses américaines qui sont hyper connues aussi et qui, elles, sont considérées les meilleures au monde. L'équipe américaine a gagné le championnat. Mais je pense que c'est mieux ce qu'elles font. Elles ont fait un procès carrément à leur fédération américaine en disant qu'elles veulent des conditions salariales et du respect et des conditions de travail et d'entraînement identiques à celles des garçons. D'autant plus qu'il faut savoir que le football féminin aux États-Unis est le principal, le plus performant, celui qui gagne le plus, le plus connu, et celui des garçons est au niveau du foot féminin en France, voilà. En Espagne.
Non, c'est vrai. Ouais. Ce qu'avait fait d'ailleurs la Norvégienne Ada Hegerberg, sans faire de procès, mais elle avait demandé en 2017 à la Fédération norvégienne d'aligner les salaires des joueuses sur ceux des joueurs, etc. Il y avait eu beaucoup de choses qui avaient avancé quand
on
même.
On va dire que si ce coup d'éclat permet d'en parler et de faire avancer un petit peu le schmilblick, c'est pas mal. Ma tendance naturelle, là, ça n'engage que moi, c'est de dire que quand même, on reste solidaire son équipe.
Ada Hegerberg, je le disais, c'est la joueuse la mieux payée du foot féminin. 400 000 euros par an. J'avais pas eu le temps de rajouter que c'est quand même 100 fois moins que Neymar. Vous l'aimez bien, lui, hein?
Oh non, je préfère quand même d'autres. Mais bon. Mais. Je ne ferai pas de délation. Mais oui, et il faut savoir que les filles gagnent, aujourd'hui, quand elles gagnent 4 000, 5 000 euros par mois, pas beaucoup plus. Et quand certaines, quand elles ont commencé.
En France, c'est moins. Hein. En France, c'est moins de 3 000 euros bruts
oui,
par mois.
Oui, et les pionnières dans les années 2000, hein, on parle bien début des années 2000, gagnaient 70 euros par mois.
Mais elles n'ont toujours pas un statut pro réellement.
Non.
Sur le plan juridique.
Non plus. Pas en France, pas en Europe non plus, non.
Non, mais si, quand même, il y a des joueuses vraiment
professionnelles. Des joueuses qui ont déjà un statut.
Oui, absolument.
Le mondial de foot féminin, en tout cas, c'est à suivre. Évidemment, sur RFI, les tchatcheuses, alors vers qui va balancer votre cœur là, dans les équipes
On est en France, donc on est à la France. C'est une bonne équipe. L'équipe américaine aussi,
elle est absolument superbe. Mais il faut faire attention à la défense. Hein.
Ah. Et moi, je vais soutenir l'équipe jamaïcaine parce que, effectivement, elles n'ont presque pas réussi à se qualifier. Elles ont eu des gros problèmes et encore les problèmes que signale Anna, c'est-à-dire que l'association de foot jamaïcaine leur a coupé les vives, pas une fois, mais deux fois. Les filles étaient vraiment, elles ne pouvaient pas participer jusqu'au moment qu'ils ont eu une espèce d'ange gardien qui est la fille Cédella Marley, du fameux chanteur Bob Marley. Et avec ses frères et sœurs, elle a enregistré une chanson qui s'appelle Strike Hard.
Frappez fort.
Oui,
pour compenser donc le déficit d'argent public.
Exactement.
Pour les footballeuses de
Exactement.
La Jamaïque. Eh bien, voilà. On écoute ça, ça sera la fin du débat. Sur le foot féminin, on y reviendra évidemment le mois prochain, on aura le résultat des courses.
Reggae girls who are lead every step by step. You don't win the match when them can't reach yet. Cause them gone bad already and them can't reset. Them try qualify and them get reject. Jamaican colors and your latest trends. Top compliments the way your wardrobe blends. Real fashion statement, feel light and lens. Your fragrance are nice up the circumference. Jump up, me say, keep it firm and strong. I want that you have a medley, well, I burn long. Rain hard, shine, cause you in a first position. No worry about nothing, ain't no competition. Woman, you got the title, your place number one. And everybody know you is a band champion. Highest medal is a gold, but you get a diamond. And anyway, you're there, you're not the latest brand. Woman, you start your show full of action. And when you touch the road, you are the main attraction. All over the world, Europe and Japan. Reggae girls, you are lead every step by step. You don't win the match when them can't reach it. Cause them can't bother ready and them can't reset. Them try qualify and them get reject. Jamaican colors and your latest trends. Top compliments the way your wardrobe blends. Real fashion statement, see light and lens. Your fragrance are nice up the circumference. Oh man, your LG
trace done bliss, no say you conscious. All reggae girls represent for your country. Extensions, lunges, squats and crunches. Your body good a vegetarian lunches. Push and come a road, you left some people unconscious. Football a kick and everyone a get anxious.
Voilà, ça c'était pour les encouragements, pour l'équipe jamaïcaine. Voyez, on est comme ça, nous, en fait, hein, en France. On est avec les tchatcheuses, trois tchatcheuses de trois continents, trois femmes journalistes pour commenter l'actualité. À venir maintenant avec vous, Ana Navarro, Pedro, les douleurs de la forêt amazonienne, les tronçonneuses, les bulldozers sont à l'œuvre pour détruire le poumon de la planète. Faut-il s'inquiéter réellement pour la forêt amazonienne depuis ces derniers mois?
Alors, un petit peu d'histoire avant d'en venir à la question. Apparemment, le mois de mai dernier, le rythme de déforestation en Amazonie a atteint des records absolus depuis 10 ans. C'est les 739 km² qui ont été détruits comme ça en 30 jours.
12 millions d'hectares en un an.
La forêt est immense, certes, et jusqu'à présent, cette déforestation qui a commencé dans les années 60, le siècle dernier, et qui s'est beaucoup ralentie à partir de 2004 par les mesures prises par le gouvernement indien, elle représente à ce jour environ 20% de cette forêt, qui est un poumon vraiment de la planète, qui représente la moitié des forêts tropicales de toute la planète. La plus grande partie est située au Brésil, effectivement, presque 70%, puis une petite partie en Colombie, Venezuela, bon, etc. Et puis, on a eu une élection au Brésil en novembre dernier d'un président qui n'en a absolument rien à faire de la protection de l'environnement, qui préfère donner permettre à ses supporters de toucher des espèces sonnantes et trébuchantes, Jair Bolsonaro.
Qui dit régulièrement qu'il faut en finir avec l'activisme écologiste chiite.
Voilà. Non, mais écoutez, ce type-là, son cerveau, c'est un mystère presque aussi grand que celui de Trump, sinon voire plus grand, de Donald Trump aux États-Unis. Bon, mais passons. Et donc, il a fait passer cette forêt, il l'a fait passer dans un autre ministère où elle n'est plus protégée du tout. Et du coup, ça a repris à une vitesse énorme. Et le problème, pour revenir à votre question, est-ce qu'il faut s'en soucier? Jusqu'à présent, même avec cette déforestation imposante, la forêt est tellement grande qu'elle se autogérait, elle se reconstituait. Le problème maintenant, c'est le point de bascule. On ne sait pas où il se situe, ce point de bascule. Mais beaucoup de scientifiques commencent à dire, est-ce que ce point de bascule est à 20%? Est-ce qu'il est à 21%, à 25%, à 30%? Le problème, c'est qu'ils pensent qu'on s'en approche. Et une fois qu'on se sera approché de ce point de bascule, c'est sans retour.
La forêt ne peut plus se régénérer seule.
Ne peut plus se régénérer. Et elle sera détruite s'il n'y a pas des mesures.
C'est quoi les solutions? Comment on peut peser sur un État souverain?
C'est la question, effectivement. Je me demandais, est-ce qu'à partir du moment s'il y a une conscience que c'est notre poumon, on ne peut pas respirer sans ce poumon, est-ce qu'on pourrait créer quand même une sorte de fonds mondial pour dédommager les pays qui, voilà, les dédommager du manque à gagner avec un arrêt d'activité. En même temps, donner des incitations à des entreprises de pharmacologie, par exemple.
Un dédommagement aussi de l'agro-industrie.
Les modalités resteraient à trouver. Je pense qu'il faudrait, parce que là, la question, c'est des privés qui vont laisser l'agro-industrie. Pourquoi on déforeste là en ce moment? C'est essentiellement pour monoculture du soja, d'un côté. De l'autre côté, pour l'exploitation minière. Il y a des réserves très importantes de bauxite et de cuivre et de fer, mais pas beaucoup plus que ça au Brésil. Et puis pour le bois précieux, pour l'industrie, des industries de luxe un peu dans le monde.
Veju Naravan, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah oui, mais on est en train de tacler ce problème tout le temps, constamment. Et je vois que les gouvernements populaires qui ont été élus vont tous dans ce sens, parce que leur mantra, c'est d'aider, ils sont business friendly, soi-disant.
Et climato-sceptiques.
Et en Inde, on voit les terres qui appartiennent à des tribus dans le Odisha ou dans les États qui sont extrêmement riches de point de vue des peaux minières sont en train d'être bradées aux copains businessmen de notre Premier ministre. Et partout avec Trump, avec l'Agence pour l'environnement aux États-Unis, avec toutes les instances environnementales comme ça, c'est exactement la même histoire. En Philippines aussi, avec Duterte, c'est la même histoire.
Et en face, il y a quand même une mobilisation d'ONG. Il y a eu le chef indigène brésilien Raoni qui est venu à Paris en mai dernier, qui a fait une tournée européenne, qui a été reçu par le pape François. Ça pèse pas suffisamment encore, la mobilisation n'est pas suffisamment importante.
Cette conscience politique qu'ils essayent, et cette conscience de survie qu'ils essayent d'éveiller à maintenant, et bien rodée maintenant, elle a beaucoup d'années, elle est devenue banale dans notre quotidien. Donc il faudra peut-être trouver d'autres façons d'intervenir, d'autres façons d'agir et des solutions pratiques, parce que c'est pas seulement avec des bonnes volontés qu'on va changer les choses. Il faut aussi voir bien qu'il y a une question d'argent derrière. Donc il faut peut-être dédommager ces pays, pourquoi pas.
Angela, ouais. Santé, est-ce que vous êtes sensible à cette cause en tant que journaliste sportive?
Je suis extrêmement sensible à cette cause. Avant ça, pas tellement. Ensuite, une fois, j'ai regardé un reportage sur les Gokis et je me suis dit, non mais...
Expliquez-nous ce que c'est.
Il y a une tribu en fait, en Amérique du Sud. Et en fait, eux, ils sont très, comme toutes les tribus indigènes, ils respectent beaucoup la nature. Et je me suis remise en question, même si moi, bon, vous savez qu'au Ghana, il y a le problème de pollution. Tout le monde jette un sachet par là, un sachet par ci. Moi, en tant que bonne citoyenne, j'essaie de mon mieux de ne rien mettre par terre. Quand je suis dans la rue, je rentre à la maison, je remets dans le plastique. Ça, déjà, c'est quelque chose que je faisais. Mais je me suis dit, non, je peux aller à l'au-delà. Donc, par exemple, si je vais au magasin et qu'on me dit, vous voulez des plastiques, je dis, s'il vous plaît, un maximum d'un plastique, pas deux, trois, quatre, OK? Et donc, il y a une sensibilisation qui doit se faire. Moi, je pense qu'au niveau des politiques, en ce moment, les gens ne sont pas sensibilisés du tout sur le statut de notre planète. Il faut qu'il y ait des lois dures, comme vous le disiez, qui dédommageraient. Donc, il faut que ce soit quelque chose de régularisé. Et ensuite aussi, il faut changer les mentalités. En ce moment, je pense qu'il y a un non-respect des indigènes très fort, et un non-respect de la culture. On ne comprend pas que la nature, c'est notre mère.
Ouais. Refaire fonctionner notamment les amendes, parce qu'il y avait des amendes au Brésil. Hein.
Oui, c'était une politique d'État de défense.
Quand il y avait de la déforestation illégale.
Mais ça fait partie du vieux discours qui mettait contre l'un contre l'autre le sauvage innocent, soi-disant, voilà. Cette espèce de paternalisme envers les tribus, envers les indigènes, contre le soi-disant progrès scientifique. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on met en question véritablement ce projet scientifique et pourquoi il y a cette course effrénée vers les nouvelles technologies, vers les progrès scientifiques, vers l'intelligence artificielle, et il y a un pillage systématique des terres tenues par ces tribus.
Mais vous savez quoi? Moi, je pense que protéger notre planète, en fait, c'est quelque chose qui va... C'est parallèle pour moi au fait du respect des femmes. Je dirais ça. Parce que pour moi, la planète, c'est
la journaliste spécialiste de foot qui parle.
Non, mais je vous assure.
Et qui est bien seule.
Si on ne respecte pas la femme, on ne peut pas respecter la planète. Et pour moi, c'est ensemble. Donc, si on change ces mentalités-là et on comprend que sans les mères, on n'est pas sur Terre... Là, on aura un autre rapport vis-à-vis de la protection de notre planète et on la respectera beaucoup plus.
Oui, mais essayer de résoudre l'étrange raisonnement. Ouais. Je parle de mon pays, l'Inde, où on parle de la mère, la terre comme la mère nature, etc. On parle de la femme comme la mère nourricière.
Exactement.
Et à la fois, on viole les femmes, on les traite terriblement mal, on tue des fœtus filles. Donc, essayez de trouver le raisonnement et l'égoïsme masculin là-dedans. Je vous demande de vous poser des questions, chers auditeurs.
Mais c'est vrai.
On va partir vers l'Everest, Veijoo Narayanan, parce que vous avez un coup de gueule à pousser d'une journaliste indienne que vous êtes contre le business de l'Everest. Alors c'est vrai que moi j'avais jamais vraiment réalisé, c'est le plus haut sommet au monde, plus de 8800 mètres d'altitude, qu'on appelle aussi le sommet de la mort. Alors là on est en pleine saison, c'est la bonne saison pour gravir l'Everest, et là vous dites stop.
Je dis stop parce qu'il y a un nouveau développement dans la conquête de l'Everest. C'est devenu extraordinairement banal. Quand on pense qu'il y a aujourd'hui plus que 4000 personnes qui ont, 5000 personnes qui ont déjà échelonné et conquis le sommet. Et ça ne parle pas des, des milliers de personnes qui ont échoué, qui ont été obligées de retourner. Mais il y a eu énormément de morts. Il y a déjà 11 personnes qui ont trouvé la mort sur la montagne cette fois-ci. Et il y a trois raisons principales. D'abord, parce qu'on a donné beaucoup trop de permis pour escalader. Tout est contrôlé par le gouvernement népalais. Deuxièmement, on a laissé escalader n'importe qui. Alors, beaucoup, beaucoup de gens ne comprennent pas le niveau de difficulté, l'entraînement, ce qu'il faut pour escalader ce sommet.
Il y a des images qui circulent là sur Internet. On a vraiment des embouteillages d'alpinistes qui sont au-delà de 8000 mètres, donc dans des zones extrêmement dangereuses.
Extraordinairement dangereuses.
Ne serait-ce que parce qu'on manque d'oxygène, hein, tout simplement.
Oui.
Aussi.
Et tout ça, c'est dans ce qu'on appelle la zone de la mort. Parce que dès que vous dépassez 26 000 pieds, je ne sais pas comment ça se traduit en mètres, mais vous entrez dans une zone qui s'appelle la zone de la mort. Alors, pour faire les dernières 300 mètres pour atteindre le sommet, il faut 12 heures d'escalade. 12 heures d'escalade où chaque pas devient quelque chose, vraiment vous êtes meurtri parce que vos poumons explosent, vous n'avez pas de l'air à respirer, vous ne pouvez pas apporter plus que certain nombre de bouteilles d'oxygène parce que le poids aussi se contribue.
Tout ça, le gouvernement népalais le sait très bien,
il le sait très bien, mais il l'explique
mais
pas.
Ça rapporte de l'argent.
Exactement, et il y a beaucoup de sociétés de voyage aujourd'hui, de trekking et d'autres, qui envoient les gens sur les Himalayas sans l'équipement nécessaire parce que ça coûte extrêmement cher. Il faut au moins 70 000 dollars. Je suis d'accord que c'est un sport niche pour les riches.
Non, c'est pas du tout ça. Ce que j'allais dire. Mais je suis en train d'écouter. Anna, vous... Les gars, les gens qui essayent de grimper jusqu'au sommet de l'Everest, ils savent pas tout ça. Ils y vont les yeux fermés comme des petits idiots. Si c'est le cas, c'est vraiment du darwinisme, c'est de la sélection naturelle.
Oh là là. Non, ils le savent, ils pensent qu'ils s'entraînent.
Ils sont riches, c'est pas de leur faute qu'ils meurent en haut de l'Everest. C'est
ça,
le fond de votre pensée, c'est un peu ça.
Non, je n'ai pas apporté la question financière là-dedans, j'ai apporté la question idiotie, stupidité, manque de préparation.
Non, manque de préparation parce qu'on vous donne peut-être 15 jours de cours.
Moi, c'est pas parce que j'ai un capitaine qui va conduire un navire que je ne vais pas voir si le navire est quand même assez peu naviguer, quoi.
Non, mais là, c'est pas la même chose, en effet, que de monter sur un navire ou que de monter dans un avion.
Effectivement, on se prépare.
Mais vous dites, Vaijunaravan, stop, il faut arrêter, il faut cesser de... Parce que ça a été un rêve extraordinaire pour les hommes. D'abord, c'était un rêve d'homme au départ, de conquérir l'Everest. Aujourd'hui, il faut cesser de commercialiser l'Everest.
Il faut absolument cesser de commercialiser aussi parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de déchets sur l'Everest. Oui. Et on n'arrive pas à nettoyer cette montagne. Si on est en train de
faire une petite station d'épuration, c'est compliqué là-haut.
Voilà. Oui. Alors, on parle de Nanda Devi aujourd'hui parce qu'il y a 8 alpinistes qui sont morts sur le Nanda Devi, mais depuis 73 en Inde, on a déclaré le Nanda Devi comme une espèce de réserve biosphérique et on a dégagé plus que 2000 kilos d'ordures qui ont été laissées. Alors, même pour dégager les corps, parce qu'il y a tellement de corps qui gisent, même aujourd'hui, sur l'Everest. Et d'une saison à l'autre, vous êtes là, parce que la fenêtre d'escaladage et escalade est tellement étroite que si quelqu'un meurt, on le laisse là pendant une année avant que les Sherpas puissent aller le chercher l'année d'après. Et
Angela,
pendant ce temps-là, le corps devient encaissé dans une espèce de tombeau de glace. Oh là là. Donc, il faut frapper et casser ce tombeau de glace à 26 000.
Je crois que là, vous avez découragé tous les auditeurs de gravir un jour les
Vous assure, en fait, moi, je trouve ça bizarre. J'ai entendu dire qu'à ce qui paraît, il y en a qui grimpaient sur des cadavres.
Oui.
Et moi, ma question, c'est quand on est riche comme ça, comme la question financière,
mais
ça va être posée.
Mais c'était pas la question.
Mais c'est les pauvres aussi qui grimpent.
Même les pauvres. Ma question, c'est, je comprends qu'on veuille se surpasser et monter le Everest. Ma question, c'est, À quel point peut-on être si obsédé d'un objectif qu'on en devient idiot?
Ben, vous savez, les conditions là-haut sont tellement difficiles que vous ne pouvez pas retourner.
Et puis c'est difficile d'imaginer
obligé d'avancer.
À quel point c'est dur physiquement.
Il n'y a qu'une seule petite corde à qui tout le monde est attaché. Voilà. Sinon, vous tombez.
Vous restez avec nous, les tchatcheux. C'est le mot de la fin pour l'Everest. Mais dans quelques instants, je vous propose l'histoire d'une journaliste, un peu comme vous, reconvertie dans l'agriculture. Allez, vous allez voir ce qui vous attend. Mesdames, ça sera juste après El Gato Negra.
De escuela, músico de calle, cualquier receta pa' que tú la baile. Nota que sube, nota que baja. Te dijo que el músico no trabaja. Siente la tranza que llega a tu panza. El ritmo te nace y nunca te cansa. Música lleva la paz. Música lleva la paz. Mestiza, tambores de bata, tu corazón que late con la música barata. Música combate, música pirata, todo se vale si mueve tu pata. Siente la tranza que llega a tu panza, el ritmo te nace y nunca te cansa. Música lleva la paz. Música lleva la paz.
Gato Negra, Candy Guira, chez 7 milliards de voisins, il y a toutes les tchatcheuses qui dansent dans le studio, Veju Naravan en tête. Reportage maintenant sur un changement de vie ou comment une journaliste de la presse féminine a repris des études d'agriculture. Elle interviewait Cameron Diaz. C'était une vraie journaliste, j'en perds ma voix, vous voyez. C'était une vraie journaliste au magazine Elle pendant 16 ans. Et en quelques mois, eh bien, cette grande blonde de 40 ans a changé de vie. Elle est aujourd'hui diplômée en agriculture. Elle se lance dans un projet de ferme pédagogique. Elle a confié ses révélations environnementales à notre reporter Alice Milo.
Je suis née à Bayonne, au Pays Basque, mais j'ai habité depuis l'âge de 3 ans à Paris. Je connaissais pas la différence vraiment entre un concombre et une courgette, j'avais aucune notion de la vie à la campagne. Vraiment, j'étais hors sol. Et donc, je voulais faire de la politique au départ. J'ai fait Sciences Po, j'ai travaillé à l'ambassade de France au Chili. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi, que j'avais l'impression d'une grosse lourdeur administrative, beaucoup d'inertie, beaucoup de mensonges, beaucoup de politique avec un tout petit P. Et puis, j'ai fait un stage dans un journal. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'adorais ce métier. Et du coup, je suis allée travailler à LCI et ensuite au magazine Elle pendant 16 ans. Et puis après, je m'intéresse au réchauffement climatique. On est au bord de la fin d'une civilisation. Là, je viens de lire un livre sur la chute de Rome. On est vraiment, ça y ressemble. Vous voyez, je me rends compte qu'on est à bout de notre énergie. On est en train de nous tuer. Et surtout, en rencontrant des agriculteurs, je me suis dit, mais c'est là qu'est le cœur du sujet. S'il y a une crise énergétique, il y aura une crise alimentaire. Et c'est eux qui nous sauveront. Et c'est ça qui me passionne vraiment et c'est là que j'ai envie d'agir. Je pouvais plus m'intéresser à autre chose. Et donc quelqu'un me dit, ah bah t'as qu'à passer ton brevet agricole, voir comment ça marche vraiment, puisque moi j'arrêtais pas de parler des glyphosates, des pesticides, etc. Et je me dis, mais il a raison, évidemment. Mais j'ai fait ça un peu comme un défi et finalement ça m'a énormément plu.
Vous devez faire un stage et vous partez dans les Alpes pour faire ce stage chez le mari d'une amie.
Oui,
c'est ça.
Dans le Beaufortin, qui s'occupe donc, voilà, il a un troupeau de 60 vaches, des tahines, elles sont magnifiques. Et voilà, et cette copine Catel, elle me disait tout le temps, viens et tout. Donc j'y allais de temps en temps l'été dans les alpages, ou voilà. J'ai trouvé ça merveilleux, mais j'avais jamais travaillé vraiment. Et lui m'a accepté.
Donc vous revêtez votre cote. Oui. D'agricultrice.
Hein, donc cette combinaison verte, je l'ai là dans mon placard si vous voulez la voir.
Et donc vous retroussez vos manches et puis vous vous retrouvez avec le racloir au milieu des vaches, c'est ça?
Oui, c'est dur physiquement, c'est redécouvrir son corps, des muscles qu'on ne connaît pas, des douleurs, des machins. Et puis c'est dangereux, c'est un métier extrêmement dangereux. Surtout moi au début j'ai eu l'impression d'être au Japon parce que j'étais en décalage horaire total quand vous levez à 4h du matin. boum, vous endormez à 9h, vous réveillez à 10h, vous retravaillez jusqu'à... Enfin, j'étais mais complètement décalée, vraiment comme si j'étais au bout du monde.
Enfin, vous vous retrouvez en fait à quatre pattes sous les pieds d'une vache.
C'est un choc parce que je n'avais aucune idée vraiment de comment ça se faisait. Et c'est un choc parce que c'est magnifique. Que vous vous rendez compte que c'est des vaches qui mangent de l'herbe, ça vous fait du lait. Non mais c'est quand même extraordinaire quand on y pense. Et donc je trouve qu'on manque énormément d'humilité face à tout ce qui nous est donné. Voilà, je me suis sentie toute bête. Mais ça fait du bien. Après, ce que moi j'ai réalisé personnellement, c'est que c'était extrêmement difficile et que moi j'ai envie de monter une ferme pédagogique, plutôt donc en maraîchage, en permaculture, pour faire comprendre aux gens comment ça marche, donner quelques notions de permaculture, les rapprocher de la terre, les rapprocher des agriculteurs. Les enfants aujourd'hui qui m'entourent, tous mes neveux, tous les enfants de mes amis sont hors sol totalement. L'autre jour, j'étais avec l'un des garçons de mon fiancé. Il voit un cheval noir et blanc et dit « Oh, une vache ». Je trouve que c'est important de comprendre, de reprendre le lien avec la terre. Je pense qu'on ne réalise que quand on a les mains dans le cambouis. Moi, ce que je voudrais, c'est que les gens vivent de façon très écolo, très respectueuse pendant 2-3 jours. Et après, quand on rentre, je pense que ça leur fera le même choc que quand moi, je suis rentrée des Alpes. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah ben non, ça, je peux pas continuer ». Voilà, c'est ça mon espérance. J'en mangeais beaucoup, j'ai arrêté complètement de manger de la viande. Donc j'essaye de ne pas utiliser de plastique, même ma brosse à dents est en bambou. Je prends quasi plus l'avion et puis j'achète beaucoup beaucoup moins d'habits. Quand j'achète des habits, je regarde d'où ils viennent. J'essaye de faire en sorte que ça ne vienne pas du bout du monde dans des conditions dramatiques, mais des bananes du Sénégal, des roses éthiopiennes qui sont passées par Amsterdam, ça me paraît absurde. Voilà, donc j'essaye de changer ma consommation. Et ça, tout le monde peut changer sa consommation. Le luxe, c'est pas de partir aux Maldives. Le luxe, c'est d'avoir un monde intelligible devant soi et de faire quelque chose qui répond à ce qu'on pense profondément.
Elle publie Toucher Terre, Florence Besson, c'est le nom de son livre dans lequel elle raconte ce saut dans le vide. Alors, mesdames, vous vous y mettez quand ? La combinaison verte, lever 4 heures du matin pour traire les vaches ?
Ouais, peut-être dans 10 ans. Non, c'est vrai. Hein. Quand j'étais plus jeune, je voulais être fermière, entre l'âge de 8 et 10 ans. Je sais pas, j'ai toujours aimé l'odeur des plantes, mais pas, peut-être pas avec les vaches, mais plutôt plus dans la jardinerie, enfin faire les choses comme ça. Mais ouais, un de ces quatre, ouais, je crois que j'aurais peut-être une plantation, planter les trucs.
Anna Navarro-Pedro, la naïveté d'une journaliste.
Ah oui, on mange de l'herbe et ça sort du lait.
Non, mais. Et aussi,
les mamans qui mangent steak frites et ça sort du lait.
Angela. Non, mais aux États-Unis, on a fait un sondage il y a quelques mois et on a demandé à peu près, je crois, 10 000 Américains de répondre à une question. D'où vient le chocolat chaud? 23% ont dit que ça venait des vaches brunes.
C'est sympa pour les producteurs de cacao sur le continent africain, ils apprécieront. Angela Asante, journaliste de foot au Ghana, on le disait tout à l'heure, pour une fille, c'est pas banal.
Non, c'est pas banal du tout. Moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont plutôt admiratifs que plutôt qu'hostiles. Mais c'est pas la même chose pour quelques collègues féminines que j'ai. Ça va pas du tout pour elles. Et bien sûr.
C'est-à-dire ?
Non, c'est-à-dire que si elles sont à une conférence de presse et qu'il y a la place pour poser 5 questions, elles peuvent lever le doigt en première, on va jamais leur donner la parole. Moi, justement, c'est tout le contraire. On va peut-être me donner la parole en première. Comme je disais, je ne vis pas cette expérience, mais je comprends que ouais, ça arrive à d'autres gens. Moi, j'ai eu la chance d'avoir vraiment une expérience très très positive. Certaines fois, j'ai justement plus de chance parce que je suis une femme. Et puis comme ils deviennent des fans, ils sont comme oh, ok, dans ce cas-là, voilà, on te donne la parole en premier.
Parce que vous écrivez pour un site américain aussi ou pas ?
Ça joue ? Oh, non, mais rien à voir avec, je crois pas, parce que bon, le site américain, c'est quelque chose d'assez comment je dirais ça, c'est un truc que je fais chez moi, donc personne vraiment sait que je travaille là-bas. Mais c'est vrai que comme je suis pas trop à la télé ou à la radio ghanéenne, dès que j'y vais, la réaction est toujours très 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 positive et ils en redemandent plus. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je fais ça, je fais ce programme, je suis là en France pour couvrir la Coupe du Monde féminine à la télé ghanéenne.
Alors comment vous allez travailler là? Je vous ai vu, vous êtes arrivé avec votre énorme appareil photo.
Alors ce que je vais faire, c'est tous les jours je prends des photos, des vidéos. Je suis toute seule ce qui est très dommage. Je devais être là avec un caméraman, mais ça n'a pas pu se faire parce que c'est, ça demande beaucoup d'investissement pour faire ce genre de voyage pendant 39
jours. Donc, vous allez tout faire.
Donc, j'ai tout faire. Donc, j'ai mon tripod qui est d'ailleurs juste là. Je place ça, je fais les interviews. Après, je me mets devant la caméra et je fais ma petite présentation. Ensuite, j'envoie tout ça à mon éditeur qui est en Roumanie. Il travaille dessus, il me l'envoie par Internet et ça passe à la téloche au Ghana.
En Roumanie,
ben
voilà.
Ouais.
Votre éditeur est en Roumanie.
Oui, 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 on est copains depuis 10 ans.
Mais c'est extraordinaire.
C'est
une géniale coopération.
Vous reviendrez, Angela, hein, à la fin de la Coupe du Monde pour nous raconter un peu vos impressions de la Coupe du Monde féminine. Merci en tout cas aux trois tchatcheuses. Ah, suspense. Demain, 7 milliards de voisins. Comment protéger les enfants de la violence des adultes? C'est enfin devenu une cause nationale en France. Je recevrai le secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance, Adrien Taquet. Voilà. En France, d'ailleurs, un enfant meurt tous les 5 jours, selon les services sociaux, sous les coups des adultes. À demain, les voisins, les voisines.